Want to learn French? Parlez-vous français? Join us every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. on CIUT 89.5 FM or on the internet at CIUT.fm or live from our studio. Both of these shows target student listeners who want to explore and travel through the Francophone world. Each Sunday, our show includes French lessons, news, reports from across the continent, as well as international news flash about Africa, Europe, the Caribbean, and the Indian Ocean Islands, and features music charts and social issues around the world. Lively, upbeat, provocative, and on target. Popovi Show, every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. In partnership with Radio France International, the French Studies Department, University of Toronto. Our email address, pot.purri@sympatico.ca.
Sur CIT 89.5 FM de 11h à 13h chaque dimanche. Potpourri, une émission réalisée en partenariat avec Radio France Internationale, le département d'études françaises, l'Université de Toronto et l'Alliance française de Toronto. Soyez des nôtres sur CIT 89.5 FM, Potpourri, l'émission qui vous mène jusqu'au bout du monde.
Brazzaville, j'ai étudié en France, j'enseigne en Californie, j'ai un passeport tricolore et une carte verte. Qui suis-je ? Français ou franco quelque chose ? Telle est la question. Bonjour à la Mabankou.
Bonjour.
C'est vous tout ça ?
Mais je pense que c'est la multiplicité aussi de l'identité. Hein. Je me questionne toujours et d'ailleurs l'identité doit être un éternel questionnement.
Mais la question de l'identité, est-ce que c'est vous qui vous la posez ou ce sont les autres qui vous la posent ?
Je crois que ce sont les autres qui nous obligent à nous poser des questions sur notre identité. Parce que si on ne posait pas cette question, je crois que nous serions des hommes ordinaires. Donc puisqu'on me la pose, eh bien, pour donner une réponse, j'ai préféré écrire un livre qui est une sorte de voyage un peu à gauche et à droite sur ces questions.
Alain Mabankou, auteur du Sanglot de la Noire.
Je veux juste entendre parler de toi.
Je survive, est-ce qu'elle paradis?
Et ceci n'est pas un roman, je tiens à le préciser, Alain Mabankou, car vous êtes un sacré romancier par ailleurs, mais avec le Sanglot de l'homme noir, vous vous êtes écarté de la fiction. Cela dit, ce n'est pas non plus un essai très pontifiant, très académique ou universitaire, ce sont des réflexions, vous dites une promenade.
C'est une promenade aussi, et je n'ai pas voulu en faire un essai qui serait catégoriquement universitaire au point de rébuter la ménagerie de 50 ans, comme on dit en France. C'est, à l'intérieur, on trouvera parfois des histoires vécues, des anecdotes, comme ces Français que je croise à l'aéroport de Los Angeles, qui me voit avec un passeport français, qui veut à tout prix savoir de quelle origine je suis, ou comme ces Centrafricains que je croise dans une salle de gymnastique qui me certifie que, en France, les Noirs n'ont pour seul destin que le travail de la sécurité. Il y a comme ça des histoires à l'intérieur qui sont comme des fictions, puis des moments de réflexion sur la question de l'immigration en France, sur la question de la xénophobie, sur les propos d'Éric Zemmour et de Ménard, etc., etc. Donc je voulais un peu balayer quelques questions qui parfois sont mal perçues par les uns et par les autres.
Mais balayer quelques pensif aussi, parce que l'histoire de l'homme dans la salle de gym ou de l'homme de l'aéroport, il vous renvoie, il nous renvoie à des pensifs et des a priori.
Il nous renvoie des pensifs et des a priori. L'homme que j'avais croisé, par exemple, c'était un Centrafricain, donc il est agent de sécurité pour un grand parti politique en France, donc parfois il va faire la sécurité pour des gens qui vont voter des lois contre les étrangers, entre guillemets. Donc c'est même le paradoxe dans ce sens. Donc je voulais aussi écrire ce livre sous forme d'adresse à mon fils qui est né en France, qui a grandi en France et qui n'a pas encore vu l'Afrique, pour lui dire que certains viendront expliquer l'histoire de l'Afrique en la magnifiant ou en la décrédibilisant, mais c'est à toi d'aller vers les grands textes, les François Fanon, les Aimé Césaire, les Bernard Dadier, pour comprendre l'âme même de cette Afrique.
En effet, votre livre, Alama Bankou, le sanglot de l'homme noir, commence par une lettre au fils Boris. Alors, je ne sais pas quel âge il a, il est grand.
Là, maintenant, il a 20 ans.
Ah ouais, ouais. Il est très, très grand.
Il va souvent aux Antilles, dans le lieu d'origine de sa mère, mais nous devons aller bientôt en Afrique, on va aller découvrir mon lieu de naissance, il verra Pointe-Noire, il verra Brazzaville, il verra aussi l'arrière-pays, pour se faire une idée, parce que lui aussi a une idée d'une Afrique comme... aurait un Européen qui n'a jamais voyagé en Afrique. Donc il croit que l'Afrique, c'est le cœur des ténèbres, comme dirait Conrad. Eh bien, je lui explique que c'est compliqué, mais il y a aussi une générosité qui pourrait t'aider à devenir un grand homme.
Oui, mais vous lui expliquez aussi que peut-être il n'a rien à voir avec les Africains qui vivent aujourd'hui au Congo-Brazzaville, à Ouaga ou ailleurs. Vous réfutez toute idée de communauté noire ou de peuple noir. Vous n'êtes pas le seul d'ailleurs, ni le premier.
Oui, je pense que lui, il est né en France. Il grandit ici. La seule chose qu'il a de l'Afrique, finalement, c'est sa couleur de peau. Donc je lui dis que en France, il n'y a pas de communauté noire parce que chacun de nous est venu pour ses mobiles. Nous ne sommes pas venus ici par le biais de l'esclavage. Donc lui, ce qui importe pour ce fils, eh bien, c'est de faire de sorte que son présent soit vivable, qu'il ne soit pas l'otage d'une histoire qu'il n'a jamais connue, qu'il n'a jamais vécue, mais qu'il regarde dans son présent ce qui pourrait faire son avenir un peu plus intéressant.
Dans son présent, c'est le sol français. Hein. Vous dites que tout le reste, ça n'est que chimère, et vous dénoncez d'ailleurs l'idée que l'Afrique pourrait être comme ça, un ailleurs possible. Vous dites que c'est un territoire mythique pour cette génération, mais est-ce que c'est pas quand même couper les gens de leurs racines? Qu'est-ce que vous en pensez des racines à la maman?
Les racines existent. Ce que je dis...
Cet indice, c'est que pour les plantes. Hein.
Non, les racines existent. Il ne faut jamais oublier ses origines. Il y a d'abord un adage qui dit que l'eau chaude n'oublie jamais qu'elle a été froide. Quand je sors dans la rue, la première chose, c'est que ce qui se voit, c'est que je suis noir, donc rattaché à l'Afrique. C'est important. Mais ce que je demande à ce fils, c'est de refuser une certaine Afrique en papier qu'on pourrait lui décrire en lui donnant une vision idéale ou idéaliste de l'Afrique. Et le jour où il se confronte à la réalité, il verra qu'en Afrique sur place, il y a des problèmes, il y a toutes les contorsions qui sont là aussi.
Une Afrique en papier, mais qui est aussi reprise dans certains discours quand même, parce qu'un certain nombre d'intellectuels ou de politiques alimentent cette idée-là.
On alimente cette idée d'une Afrique en papier, voilà. Nous sommes les premiers, nous avons fait ceci, mais si nous n'avons pas fait cela, c'est parce qu'il y a eu la colonisation et l'esclavage. Je dis, c'est bien, il y a eu cette colonisation, cet esclavage, mais maintenant, il s'agit de sortir de ce cercle et de retracer une Afrique qui marche, une Afrique mobile et une Afrique dynamique.
Le sanglot de l'homme noir, pourquoi ce titre? Pascal Bruckner avait écrit Le sanglot de l'homme blanc.
Moi, Pascal Bruckner, dans Le sanglot de l'homme blanc, essayait un peu de fustiger l'attitude des Blancs qui avaient honte de ce qu'ils avaient fait pour l'Afrique. Bon, ça c'était son idée. Mais moi, ce qui m'intéressait dans le titre que j'ai dévoyé en intitulant mon livre « Le sanglot de l'homme noir », c'est de sensibiliser les gens contre certains qui pensent que parce qu'on a subi la traite négrière, parce qu'on a subi la colonisation, qu'on ne peut plus tracer notre propre destin. Cette histoire, on doit l'étudier. Il y a des grands historiens, Émile Kiambokolo, Mamadou Diouf, des grands intellectuels africains, Achille Mbembe, qui font un travail essentiel à l'intérieur. Mais maintenant, il ne faut pas que nous passions parfois notre temps à nous lamenter sur les malheurs du passé, au lieu de construire ce présent en se disant que vous allez nous accepter parce que nous sommes des hommes à part entière et non entièrement à part.
Alain Mabankou, dans ce livre, vous parlez beaucoup de littérature et vous proposez d'ailleurs à votre fils d'aller voir les grands textes que vous nous racontiez. Vous dites d'ailleurs que les Africains ne se connaissent pas assez, ne connaissent pas assez leur propre littérature. Vous citez abondamment un auteur un peu oublié quand même, qui est Yambo Walagem, premier Africain à recevoir le prix Renaudot, c'était en 1968, pour un roman, c'était son premier, intitulé « Le devoir de violence ». Et voilà ce qu'il disait.
J'ai tout simplement parlé de devoir de violence à deux niveaux. Tout d'abord, la violence érigée en tant que système politique par le colonialisme des notables africains, par la faute desquels l'homme noir est devenu nègre, puisque cette notion est liée à celle du négrier. Ensuite, le colonialisme de la conquête arabe. Et enfin, le colonialisme blanc. Et par ailleurs, il est évident que pour les Africains pris dans le contexte actuel, si l'on parle de devoir de violence, il s'agit d'abord et avant tout d'un devoir d'évolution créatrice. J'ai estimé dans ce livre que nous avions, nous autres Africains, vécu jusqu'à présent dans une espèce d'attitude d'esclave, dans la mesure même où, au lieu de nous définir par rapport à nous-mêmes et à une authenticité africaine, nous nous définissions toujours par rapport aux critères de civilisation de l'homme blanc. Alors, si vous voulez, il s'agit de déshypothéquer cette espèce de faux dilemme en cessant enfin d'être des hommes de la revendication pour construire l'Afrique et attaquer les problèmes qui se posent.
Alain Mabankou, que pensez-vous de ce que disait donc Yambo Walagem il y a plus de 40 ans?
Oui, c'est parce que j'ai voulu d'ailleurs lui rendre hommage en intitulant un de mes chapitres « Le devoir de violence ». Yambo Walagem demeure l'écrivain le plus visionnaire du continent noir parce qu'il demande aux Africains de cesser tout simplement d'être des êtres de revendication. Il s'agit de pousser une autre Afrique, de créer quelque chose qui soit de l'ordre du présent. Et c'est peut-être pour cela que le pauvre Yambo Walagem, qui vit toujours au Mali, a été l'objet de plusieurs cabales, même des traditionalistes, parce qu'il disait la vérité. Qu'est-ce que Yambo Walagem nous dit là? Que la colonisation, nous les Africains, nous l'avons faite sur les Africains également.
C'est un tabou.
C'est un tabou, mais justement, il a payé le prix d'avoir dit réalité historique. Je pense que c'est pour cela que la plupart des grands écrivains actuels de la nouvelle génération, comme les Kossi et Fuy et autres, sont tous des enfants de Yambo Walagem, qui a décidé de dire ce qu'il pensait au lieu de continuer à vivre dans une certaine hypocrisie.
Mais c'est vrai que pendant très très longtemps, on n'a pas pu voir, lire plutôt son livre. Il était quasiment introuvable. Le devoir de violence, il est publié aujourd'hui.
Voilà, il était introuvable en France puisqu'il avait été interdit. Il y avait plusieurs sortes d'histoires sur lesquelles on ne reviendra pas parce que ça prendrait du temps. Mais le livre était disponible dans le monde anglophone, où Yambo Walagem est considéré comme un écrivain emblématique. Et d'ailleurs, le roman Le devoir de violence est un chapitre de l'histoire de la littérature d'Afrique noire, au même titre que Le soleil des indépendances d'Amadou Kourouma ou La vie et demie de Sony Labutansi.
Alors pour l'anecdote, mais ce n'est pas tout à fait une anecdote, d'ailleurs il a reçu le prix Renaudot en 68 et vous l'avez reçu à la Mabankou en 2006 pour Mémoire de Porc Épic. En tout cas, ça vous amène à faire un constat, je trouve, assez dur sur l'histoire de l'Afrique et sur l'histoire notamment récente dans ce livre, Le sandau de l'homme noir. Vous dites que les Africains sont comptables de leur propre faillite. Nous ne sommes pas les enfants des soleils des indépendances, mais les enfants de l'après-génocide rwandais.
Oui, ça c'est aussi un avis que j'avance, parce que nous avons quand même assisté à un des derniers génocides du 21e siècle, en 1994 au Rwanda. C'est vrai que les Européens diront que c'est un génocide entre les Rwandais. Non, il y a une responsabilité pratiquement collective. Les Belges ont institué la carte d'identité avec la désignation de l'ethnie à l'intérieur, et c'est cette carte d'identité que les bourreaux allaient utiliser plus tard pour séparer les Hutus des Tutsis. Et parallèlement, les intellectuels africains, nous avions le devoir de réagir à cela bien avant, mais hélas, on a parfois attendu après pour faire le constat. Moi, je ne souhaite plus que chaque fois qu'il y a un problème, qu'on attende de faire le constat, mais il faut endiguer la difficulté dès le départ. C'est pour cela que je dis que nous sommes tous responsables du génocide qui s'est déroulé au Rwanda.
Et dans ce livre, Alama Bankou, vous revendiquez aussi et vous préconisez presque de revenir au terme de nègre. Vous dites aujourd'hui, à force de ne plus être des nègres, on est devenus des blacks, et en fait, on est devenus tous des immigrés. Et ça, c'est un point de vue d'Africains vivant à Paris.
Non, mais il y a cette expérience aussi, parce que moi, je suis né en Afrique, j'ai vécu en France plus de 17 ans, je vis aux États-Unis. La chose la plus blâmable pour un noir, c'est de penser que le mot nègre est chargé de préjugés ou quelque chose. Il faut redéfinir ce mot, et c'est James Baldwin qui pense que ce n'est pas au blanc de dire nègre, c'est à vous-même de prendre cette expression et de démontrer comment elle est belle, et c'était le sens des grands mouvements comme ceux de la négritude, du panafricanisme, qui sont des mouvements, effectivement, qui ont redonné un humanisme à l'homme noir, mais un homme noir conscient, un homme noir en action, et non un homme noir qui est dans le système des lamentations ou de la victimisation éternelle.
Donc vous êtes nègre et français.
J'assume justement ma négritude en tant que telle, mais je ne fais pas de mes malheurs le souci quotidien. Plutôt, je combats les injustices qui se trouvent ici en France, parce que les Noirs d'ici souffrent, et c'est cette souffrance que nous devons combattre.
Et vous rappelez fort justement dans cet essai que Brazzaville fut longtemps, pendant quelques mois, en tout cas quelques années, la capitale de la France, à un moment quand même particulièrement crucial, puisque les nazis étaient dans la capitale française actuelle, en tout cas.
Oui, en quelque sorte, tous les Français sont des Brazzavillois ou des Congolais, parce que quand la France était occupée, c'est mon pays, le Congo-Brazzaville, qui était devenue la capitale de la France libre, Brazzaville. Le discours du général de Gaulle a été fait là-bas, nous avons la case de Gaulle, mais il y a une certaine ingratitude par la France qui ne sait jamais reconnaître que nous les avons accueillis sans pour autant fixer une certaine immigration choisie. Vous vous rendez compte que pendant la guerre, nous avons choisi les Français qui devaient venir chez nous, mais certains seraient aujourd'hui dans une mauvaise posture.
Et aujourd'hui, 60 ans après, en France, voilà ce qui s'est raconté il y a quelques mois, c'était un fameux débat sur l'identité nationale.
Le débat sur l'identité nationale est un débat absolument fondamental pour notre nation.
Vous avez raison de soulever la question des étrangers, c'est un problème majeur dans notre pays. Le drame français, c'est la division et c'est la diversion. Il faut se concentrer sur l'essentiel, la délinquance. Chacun sait qu'il y a des liens avec l'immigration. Chacun le sait.
Et c'est pour ça que c'est un débat foireux. Parce que ces phrases, elles offensent. Elles offensent des millions de personnes qui vivent aujourd'hui sur le sol français, qui sont basanés, qui sont parfois de religion musulmane, qui sont noirs, qui sont créoles et qui sont exclus de cette identité nationale.
S'aimer soi-même pour dire aux autres viens à nous. Il faut s'aimer soi-même et connaître ses valeurs pour demander aux autres de connaître et de respecter les valeurs de la République française et de la nation française.
C'est vous qui vous haïssez, c'est vous qui haïssez les minorités.
L'objectif, c'est relever le défi du métissage. Défi du métissage que nous adresse le 21e siècle.
Nicolas Sarkozy et quelques autres autour de cette question d'identité nationale, comment vous avez vécu cette période à la Mabankou? Et je me suis demandé si ce livre, d'ailleurs, Le sanglot de l'homme noir, n'était pas directement lié à cette question de l'identité nationale.
Oui, c'est lié à cette question, mais vous savez, lorsque les gens lisent en général le livre, ils retiennent là où je discute de la question de l'Afrique, de la question de notre histoire, mais il y a une large partie de la question de l'immigration ici. Quand vous entendez des propos du style « on essaye de lier la délinquance à l'immigration », il n'y a pas que les immigrés qui sont dans la délinquance, et il n'y a pas à considérer l'immigré comme l'ennemi numéro un. Je rappelle souvent à beaucoup que ces émigrés, pour la plupart, ont été envoyés ici pour venir défendre l'Empire français. Et maintenant, on en veut plus et on veut en faire des brebis galeuses. C'est une sorte de démagogie.
Aux États-Unis, où vous enseignez, à la maman, quoi est-ce que cette question de l'identité se pose? Pas du tout.
La question de l'identité se pose autrement aux États-Unis, puisque l'Amérique est un territoire de peuplement. Les gens sont arrivés de toutes parts, ils ont déjà cette culture ethnique de l'enchevêtrement des ethnies, et que ça n'étonne pas à quelqu'un que un noir qui porte des boucles d'oreilles et des dreadlocks dirige une grande banque. Vous imaginez, en France, un noir avec des dreadlocks et une boucle d'oreille ne dirigera pas cette banque.
Et ça n'étonne personne qu'un noir avec une belle casquette enseigne la littérature française en français dans une université, parce que c'est votre cas.
Ben voilà, donc on essaye, mais moi je pense que la question de l'identité ici est une question tellement démagogique qu'on n'arrive jamais à la fermer.
Est-ce que l'immigration, est-ce que votre statut d'étranger, de noir en France, a joué sur votre écriture, à la maman? Vous le dites en partie, sans savoir exactement complètement l'analyser, il ne s'agit pas de la nostalgie, mais vous dites quand même que ça a joué.
Mais effectivement, ça joue. La chose essentielle, quand j'écris mes livres, il y a cet accent congolais qui est là. Celui que j'ai actuellement lorsque je suis en train de parler. Et cet accent, je ne voudrais jamais le perdre. C'est ça qui fait que je suis celui que je suis. Et le fait de reconnaître que je suis un noir me permet d'aller de l'avant, de faire autre chose que de m'interroger jusqu'à la fin de mes jours sur ma négritude. Ce que je dois faire, c'est de poser des actes qui feront de sorte que on ne regarde plus un homme noir comme on le regarde aujourd'hui, parfois avec dépit ou commisération.
L'accent ou la musique?
L'accent et la musique.
Vous savez pourquoi je vous pose la question? Parce que vous êtes lancé à la Mabankou dans une sacrée histoire. C'est la production d'un disque d'après votre roman de 2009, Black Bazaar. On va en parler, mais on va d'abord écouter, parce que c'est une avant-première mondiale, une exclusivité RFI grâce à vous. Mais vous ne chantez pas, c'est Souleymane Diamanka.
J'ai écrit les paroles.
Guardi che foda mammi, sanguine camicia, come dire due giavi se ne va, si fa fondi sulla tua Congo Brazza, l'africaine école buissonnière des beaux-arts, e come par hasard, la chanson s'appelle Black Bazaar. Je crois que lever le matin, c'est le soleil qui se lève. Laisse dans les vestiaires ton baratin, la vie c'est pas du rêve. Pour pas rater ton train de vie, fallait prendre le précédent. C'est une question de survie, que tu sois pour ou contre. Le temps c'est de l'argent, ton temps. L'homme inventa la montre, mais Dieu créa le sang. Justice blanche, misère noire, la bête noire c'est toi. C'est écrit noir sur blanc. L'on sera en chemin de croix, et ta peau restera noire malgré ton masque blanc. Sorti droit de la Black Mafia, paumé sur la blacklist, paumé dans le blackout, je joue au blackjack. J'écoute Paint in Black, je dois sur le Blackberry, je plains le Black Cowboy, bien coiffé, bien rasé. Bien coiffé. Bien rasé, bien parfumé, costume sur des mesures, chaussures coco bien tirées, verco sous mon cas, cabriolet, Black Bazaar, Black Bazaar, bien parfumé. Costume sur des mesures, chaussures coco bien tirées, Mercosur Moufia, cabriolet, mes comptes bancaires à découvert. Jalia Jangin Tag, Kotine Dike Dini, Suleymane Diamanka pour vous servir, qui fait encore du couladou au Congo Brazza. L'africaine école buissonnière des beaux-arts. Car comme par hasard, la chanson s'appelle Place Bazar. Place Bazar. Alain Mabankou,
Mamou Malemoukidi,
Sam Chinkou,
Takuba Takuba,
Modogo Abadamboa,
Mamou Malemoukidi,
Black Bazar.
Black Bazar, la chanson que je découvre en même temps que les auditeurs, puisque vous nous l'avez apportée à la Marboncou quasiment dans un coffre-fort, donc ça bouge bien.
Oui, j'ai écrit cette chanson. Quand je l'ai écrite, je pensais à la faire interpréter soit par Oxmo Puccino, soit par Souleymane Diamanka. Et puis j'ai vu Souleymane qui a une très belle diction, une très belle voix, et puis j'ai réuni des musiciens de Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, les Doakou, les Sam Tintou, et puis on a fait tout un album de 10 titres qui sortira le 5 mars chez Los Africa en distribution chez Sony Music.
Mais il y a le retour à la rumba de l'enfance, non?
C'est le retour à la rumba d'enfance parce que ce disque a été fait dans les conditions de live. Je ne voulais pas qu'on mette des machines, qu'on mette une programmation. J'ai mis les musiciens à l'intérieur. J'ai dit, vous faites comme à l'époque ancienne de la rumba où les musiciens n'avaient pour instrument que leur voix et de la musique en tant que telle. C'est pour cela qu'il n'y a pas de saturation. Il y a un certain rythme qui fait que j'espère que cet album nous réconciliera.
Très chic en tout cas la pochette, j'ai pas écouté tous les titres, c'est pour cause, mais je vais le faire. On trouve plein d'autres interprètes, plein d'autres musiciens dans cet album. Est-ce que c'était une lubie, une opportunité, un hasard ou une envie quand même depuis très très longtemps que de produire et de faire de la musique?
C'est une envie qui date de longtemps. Moi je joue un peu de la guitare, j'aurais voulu être musicien, mais comme je ne suis pas très doué là-dessus, et bien j'écris les chansons, je les fais jouer par les autres et j'ai réuni plusieurs. Il y a New Vert qui joue souvent avec Raoul Paz qui est là, Piti Cabrera, les pianistes cubains, et Modogo et Sam qui étaient les musiciens de Koffi Olomide, les guitaristes comme les Popolipo qui sont venus agrémenter cet album.
Donc une nouvelle carrière.
Donc, moi je suis, mon rôle c'est d'être producteur et auteur des chansons. Pour le reste, je produis ceux qui veulent être produits.
Merci Alain Mabankou, le sanglot de l'homme noir. Donc votre essai vient de sortir chez Fayard et on attend avec impatience cet album Black Bazar édité chez Luz Africa. Ce sera le 5 mars et on retrouvera le teaser de l'album sur la page Facebook de l'émission si vous en êtes d'accord. Par ailleurs, si on a pu entendre la voix de Yambo Wallagem, c'est grâce au disque coédité par RFI intitulé L'Afrique littéraire, 50 ans d'écriture, réalisé grâce à la sonothèque de RFI et Alina. Culture Vive avec Florence Ponce, réalisation signée Nicolas Benita, bon week-end.
Qui tournera sur rien qu'une bête, qui cherche à froid, ce qui cache la peine. J'ai que je donne, j'ai que je refuse, je suis pardonné vers ce que j'ai repris. Ça m'a amené vers ce que j'ai perdu, ça m'a amené vers ce que je rends. J'ai que j'ai tenté, j'ai que j'ai voulu, j'ai été tenté, je m'en suis voulu. Je m'ai contenté pour souvent laisser la réalité, je n'ai jamais su. J'ai veillé à vouloir bien plage, j'ai cherché la pierre qui s'installe, j'ai veillé à vouloir bien plage, j'ai senti une voix enchantée, j'ai des dons qui sont sans penser, j'ai senti sans méchanceté, un coup de chance qui sort enchanté, je suis acharné à devenir déçu, j'ai été charmé par toutes ces vertus, peut-être pas une véritable aperçu, mais j'ai perçu, je l'ai jamais su. pensé que j'ai essayé. Bien trop souvent, hypnotisé par ce rêve envoûtant. Rivalisé, devenu même souvent. Je les ai vu défiler comme des simples coups de vent. J'ai dit longtemps, la langue s'abuse. Amour absolu, tu me souhaites la bienvenue. Tu es au bon temps, totalement mis à nu. Cherchez aucun but, je n'ai jamais reçu.
Sony Center for the Performing Arts hosts Tango Passion, Saturday, February 18th at 8 p.m., featuring the world's greatest tango dancers and a live orchestra. Tango Passion weaves together a variety of exhilarating tango stories representing the full diversity of Argentine society. Tickets are available for as little as $49. Go to sonycenter.ca or call 1-855-872-SONY.
From the roof up, CIUT 89.5 FM, Toronto, presenting the history and evolution of the sound. 25 years and counting, CIUT 89.5 FM, Toronto.
Les amis, est-ce qu'on peut y aller?
Ok, d'accord.
Je suis resté ignoble.
Couleur est trop. Le bon sang de nos vieux perles.
Marque le temps, ancien combattant, on a sauté.
Bonjour, bonsoir à tous. La case se met aux couleurs, le rythme du rétro, tout est permis. Des chemises fleuries, au pantalon pattes d'éléphant, à la réalisation aujourd'hui Richard Ifono, à ses côtés Annabelle Jugamarandi, à la coordination. Soyez les bienvenus, vous êtes chez vous.
Couleur tropicale avec FM Yurtour.
Aujourd'hui encore, nous allons ouvrir la discothèque des vieux pères, sortir les vieux vinyles pour notre plus grand plaisir. Nous serons en direct avec Aïssata, notre correspondante du Sénégal, qui nous fera le plaisir de nous faire découvrir son coup de cœur des années 80 et 90. Bienvenue à tous à Kouaba, confirme l'unité, loi.
Alléluia. Ah!
les hommes.
Sangolini, Sangolini, à tous nos amis du Congo, Matongé doit vibrer. Antoine Agbepa Mumba, alias Kofi Olomide, a fait danser tout le continent avec ce titre Loa. Il a mis, comme dirait l'autre, la fuite sur un pied, mais il n'était pas seul. Bien avant lui, il y avait bien sûr Moni Bilé qui avait dansé tout le continent grâce à son titre Makusa, aussi Tapalambo. On écoute. Douala, Gribi, Abafoussam, bien sûr à nos amis de New Bell, bienvenue, vedette consacrée de la musique africaine, Moni Bilé, dans son succès aussi à la révolution française du Makusa, dont il est le précurseur et qui a inspiré toute une génération d'artistes, auteurs, compositeurs, contemporains dans le grand microcosme du Makusa. Restons toujours dans du bon, dans du gros, et lorsque l'Afrique danse, la Caraïbe transpire, Jacob Desvarieux et ses amis vont déverser un tempo zoukant sur toute l'Afrique entière avec le titre Zouk. Là, c'est le seul médicament non incassable.
Come on.
Que nous avons le groupe Cassav. L'histoire de ce groupe commence en 79 par Pierre-Edouard Décimus, Freddy Marshall, qui seront rejoints plus tard par Jacob Desvarieux, Jocelyne Desroy, Jean-Philippe Martelly, Jean-Claude Raymond, Nénéro, pardon, et bien d'autres. Alors, ils sont à l'origine d'un nouveau genre musical, le zouk, avec l'apparition de nouveaux sons, surtout au niveau des basses, des claviers, des cuivres, et ça donne ça. On se retrouve dans quelques instants avec du beau son, et maintenant tout de suite avec Aïssata du Sénégal. Bonjour Aïssata.
Sur la route Dakar, sur la route de Dakar.
Aïssata, Nangadef, Nangadef, Rabas, Nangadef, Dakar, Nangadef, Pekin, Nangadef.
Magnifique.
Comment ça va, Loubès, Dara?
Ouais, ça va, hein?
Dara Bessoul. Bon, alors. Bon, est-ce qu'on a mangé? Ah, tu veux couleur tropicale, mon best? Bon, ben, ça fait plaisir, alors. Est-ce qu'on a du bon tiep aujourd'hui? Du soumganja, du tout ce que tu veux, du mafé, tout, il y a
en
tout
fait,
pour
ce soir, il y a du yassa.
Il y a du yassa. D'accord, alors.
Du yassa poulet.
Alors. Vas-y, Aïssata, quelles sont les news du village?
Là, je vais vous parler d'un artiste qui nous a quitté très très tôt. Donc, c'est dans la partie réponse, je vais parler de Laïbouk, on l'appelait Abdoulaïbouk.
Mm-hmm.
Donc, c'est un artiste qui est né en 1937 et qui nous a quitté le 23 juin 1975. Donc, c'est un artiste que nous, la jeune génération, n'a pas très très bien connu. Et c'est la raison de mon choix aujourd'hui. Donc, je dirais que Laïmouk n'a pu faire que 3 albums, 2 compilations avec l'Orchestre à Baoba, mm-hmm. et un autre album sorti en 1972. Et pour dire que c'était un artiste de cette Dioba exceptionnel, auteur, compositeur, et Laïmouk demeure encore l'inspirateur et de nombreux artistes, dont Tom Sek, Hassan Bouk. Il est ex-membre de l'ensemble lyrique traditionnel du Théâtre National Daniel Sorano.
Mm-hmm.
Cet artiste a introduit à travers l'Orchestre Baobab le chant griotique de la musique moderne sénégalaise. Donc son célèbre titre, L'Abîme des Idées, je vais vous proposer un peu plus tard, rend hommage au grand homme politique sénégalais de Maître L'Abîme des Idées, décédé en 1968. Je rappelle juste que le président Lamine Gueye était le premier juriste de l'Afrique française de l'époque, gouverneur de la ville de Saint-Louis, magistrat à l'île de la Réunion, fondateur du premier parti politique de l'Afrique francophone, Parti socialiste sénégalais, et il était aussi député. Donc Lamine Gueye est rendu hommage car maintenant la idée que je vais vous proposer.
Mm-hmm.
Juste rappeler que l'artiste a si conquis de sa voix tous les mélomanes sénégalais et d'autres pays.
D'accord.
Et malheureusement, il nous a quittés à l'âge de 38 ans FM.
Ouais.
Ce qui fait que moi et ma génération, on ne connaît pas très bien son répertoire et c'était intéressant, vraiment bien, que la structure qui est en charge de toutes ces œuvres-là puisse rééditer les albums de l'Aïmouk. Et voilà, je vous propose de suivre. Oui.
Merci beaucoup, Aïssata. Donc, on va écouter Laïmouk, Maître Lamine Gueye.
Oui. Et c'est pour souhaiter un joyeux anniversaire à Bakary Kenyan du Théâtre Universitaire.
Merci beaucoup, Aïssata. Merci à tout le Sénégal. On va donc écouter Maître Lamine Gueye, Laïmouk. Merci. À très bientôt. Ciao.
À très bientôt. Ciao. Au revoir.
Rew yepp ñoy seen bay Allah la ni no kay wetal nga Senegal lay ba
Senegal ala jemon na bay na met na mi Let me know, can you be done with Senegal?
Sachant qu'un hommage rendu à Maître Lamine Gaye, là où on boupe une très très belle chanson, nous allons donc revenir aux années 80 et 90, une belle chanson de Gaye Sealy King en solo. Le tube King Solo qu'il a d'ailleurs révélé, ancien capitaine de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, de la Cité d'Abidjan, reconverti dans la chanson. Il a opté pour une musique de variété aux couleurs ivoiriennes, sous rumba. Allez, on part cette fois-ci dans le pouvoir en musique d'afro. C'est un grand homme, il est, il demeure, il sera toujours le coup du B. Slef. Il a chanté toute sa vie, son enfance, son vécu, l'histoire de son pays, l'Afrique du Sud, la partie de l'Afrique et l'homme, il lutte, la lutte contre la discrimination raciale, la ségrégation et l'exclusion.
Ta page nocturne.
On boit jusqu'à l'offre, on casse les verres et on paye pas.
Couleur tropicale, ça.
Thank you. Vous écoutez Pot Pourri, l'émission qui vous mène jusqu'au bout du monde sur la bande CUT 89,5 FM. Une émission réalisée en partenariat avec Radio France Internationale, le département d'études françaises, l'Université de Toronto et l'Alliance française de Toronto. Pot Pourri, l'émission qui vous mène jusqu'au bout du monde.
From the roof up, CIUT 89.5 FM, Toronto.
Couleur du sphinx, la maison d'Ousmanso, où il nous reçoit en sol majeur. Maison plantée, massée par ses mains d'anciens kinésithérapeutes, pas très loin de l'aéroport international de Léopold Sédar Senghor. Rencontre et rediffusion tranquillement monumentale avec un sculpteur sénégalais inscrit dans le Petit Larousse et qui expose régulièrement ses séries africaines en France, alors qu'il déclinait l'an dernier l'invitation de la troisième édition du FESMAN. Monsieur Sou, la joue indépendant, c'est un amoureux critique du Sénégal, où il crèche désormais, et un critique toujours attentionné de cette France qu'il aime sans la comprendre.
Les élégances parisiennes se livrent à l'enseigne du Trou Madame, un club très fermé, à leur nouveau sport favori, la pipe. L'histoire n'a retenu que quelques fumeuses de pipes célèbres, mais les émules de Georges Sand sont loin d'être aussi rares qu'on pourrait le croire de par le monde.
Nous sommes pas des voyous.
Ouais, mais c'est ça, bien dans l'histoire, c'est parce qu'on roule sans les gros slogans, hein, tout de suite.
Et d'ailleurs, nous en avons. Tous les gens dans les journaux, il y a marqué, ils vous en noir, on fait ci, on fait ça, et bien c'est pas vrai.
Évidemment, nous va après, on fait du bruit, ça y est, tout de suite, on a des gros en noir.
On va vous raconter une belle aventure. Une belle aventure sportive, celle du Tour de France. Le Tour de France qui a vu le jour au début de ce siècle et qui est sans doute l'une des épreuves sportives les plus anciennes qui continue à se disputer de nos jours.
Quels films de neuf ce sont les principaux films que vous avez interprétés? Le premier film que j'ai tourné il y a environ 2 ans s'appelait Ficha. C'est une de Jacques Villac qui n'est jamais sorti parce qu'il était censuré. Et je l'ai tourné pendant l'année scolaire. Mais j'ai pas continué mes études parce que j'avais pas un rôle important, ce qui permettait d'aller en classe humaine.
Et voilà, à vous peut-être d'apporter d'autres éclaircissements, en tout cas, que votre imagination forme.
Voilà, c'est comme dans une carte postale à la Douaneau, tout à coup il disait tout noir et blanc. On était dans le Paris des années 50-60.
Oui.
Salut les copains. Vous débarquez en 1957 à Paris, Ousmanso,
oui.
Après avoir voyagé en 4e classe.
Oui.
Hein, oui. Alors, je ne sais pas si vous sculptez dès votre arrivée des bonhommes de neige, mais ce qui est sûr, c'est que votre premier Noël à Paris est rude.
Très, très rude. Parce que d'abord, je suis venu sans le sou, j'avais 500 francs. Mais il y avait aussi que je ne connaissais personne.
Non.
Et c'est là que je me suis débrouillé. Ça a été une partie qui était difficile, mais qui m'a fait connaître aussi vraiment la générosité. J'ai été appris dès mon arrivée avec la société. Je raconte l'histoire de cette boulangère qui nous promettait du pain et du chocolat chaque jour, qu'elle ne pouvait pas nous donner de l'argent, mais qu'elle pouvait nous assurer. C'est là parce qu'elle me voyait hésiter entre le pain et le, Son corps est plus différent, même le, au commissariat. J'imagine mal quelqu'un aujourd'hui, même avec sa carte de séjour, aller au commissariat pour dire je ouvrez-moi une cellule pour que je puisse y dormir.
Ils ont changé un peu, c'est vrai. Est-ce que vous avez peut-être croisé sous la mansarde du jeune étudiant où vous étiez une Catherine Deneuve débutante, comme on vient de l'entendre là dans cette carte sonore, ou même une môme chantée par Jean Ferrat?
Oui, une môme de Jean Ferrat, oui. Et ça fait partie aussi des premiers contacts. Parce que je vivais à peu près la même chose. Je connaissais des filles qui n'étaient pas traitées, j'habitais une mansarde, et tout ça, c'était formidable.
Donc cette chanson, elle fait écho à votre vécu en arrivant dans la capitale. Ça, oui. Qu'est-ce qui vous a amené en France, Ousmane
Sow? Je crois que c'est le décès de mon père. J'ai voulu vraiment faire un break, parce que c'était très douloureux de le perdre à 22 ans. Et son image était un peu partout dans la maison, dans la rue et tout, il fallait vraiment rompre.
Donc vous allez faire des études d'infirmier, puis vous allez devenir kinésithérapeute. On n'a pas le temps de d'évoquer tout ce pan d'histoire concernant, mais un mot de l'indépendance. Lorsqu'elle arrive en 60, le Sénégal devient une république avec son fameux président poète. Là, vous n'hésitez plus entre la France et le Sénégal.
Ah oui, non, mais ça c'est fait. À l'époque, j'étais à l'hôpital Fernand Vidal. J'avais un poste puisque le premier poste de toxicologie, c'est-à-dire les intoxiqués. Mmh. Un jour, le docteur m'a appelé pour me dire, ben voilà, vous avez le choix entre avoir la bi-nationalité, ça ne sera qu'une signature au bas d'une page. C'était le seul choix que je ne pouvais ne pas faire.
C'est-à-dire
la double nationalité. Je lui dis non, je renonce à ma nationalité française et je vais conserver que la nationalité sénégalaise. C'était évident et puis bon, il y a un peu aussi de romantisme qui était là.
C'est lié aux indépendances.
Aux indépendances, tout ça. Et depuis, j'ai toujours eu la nationalité sénégalaise, je n'en ai pas d'autre.
Alors dans ces années 60, on va passer tout à coup du noir et blanc à la couleur. On va se retrouver en plein cinémascope. Peut-être au cinéma Corona de votre quartier Rebeuse d'ailleurs. Vous fréquentiez beaucoup le cinéma à ce moment-là. On va retrouver Dean Martin et Ricky Nelson avec My Whistle, My Pony and Me. C'est extrait du film Rio Bravo de Howard Hawks. Pourquoi cette chanson?
C'est pas celle, c'est une chanson, c'est extraordinaire, l'harmonie, bon, d'une matine, un alcoolo repenti, ce jeune qui vient, qui comment dire, sincère dans tout ça. Et ça, et la chanson est très belle.
Oui, chef.
Je sens le soleil
in the west, the cattle go down to the street. The redling settles in the nest. It's time for a cowboy to dream. Purple eyes in the canyon. That's where I long to be with my three good companion, just my rifle, pony, and me. Gonna have my sombrero on the limb of a tree, coming home, sweetheart, darling. My rifle, pony, and me. Just my rifle, my pony, and me. Whippoorwill, in the willow, sings a sweet melody, riding through Amarillo.
un crooner cowboy sur la pick-up dans Sol majeur, Dean Martin accompagné par Ricky Nelson dans une séquence de Rio Bravo. Et ça se passe sous le chapeau d'un cowboy qui communique par signe indien et dans sa maison qui a presque des allures western, hein, avec, avec le plafonnier.
C'est pas mal, bien,
on le doit à notre invité, le sculpteur Osman Sow.
Ok.
P comme Panthéon.
Il y a du monde dans votre Panthéon, Ousmane Sow. Ça a donné lieu d'ailleurs à une série intitulée Merci. Hein, où on retrouve toutes les grandes figures de votre Panthéon. On va dire un mot de Victor Hugo.
Bon, Victor Hugo, c'est... Après mon père, c'est l'homme qui m'a le plus marqué, d'abord parce que je l'ai connu tout jeune. Quand, après la bataille, c'était dans nos programmes. Il y a de l'héroïsme, il y a de l'humanité, il y a tout ça.
Vous connaissez encore par cœur mon père, ce héros?
Ah, enfin, des bribes.
Des bribes?
Oui. Mon père, ce héros, suivi de son histoire qu'il aimait entre tous pour sa grande bravoure et pour sa haute taille, parcourir à cheval, soit d'une bataille.
C'est parti.
C'est beau.
Il y a des bribes, simplement.
Et ça remonte à plus de 60 ans, la vie.
Alors, il y a aussi quelqu'un qui joue dans une autre catégorie, là, vraiment, et qui vous fascine aussi, c'est le fameux Cassius Clay. Et on en a une gravure sonore avec au micro un poids lourd de la télé, M. Bernard Pivot.
Est-ce que votre attitude lorsque vous insultez vos adversaires, est-ce que vous voulez décourager vos adversaires ou vous encourager vous-même?
Vous avez peut-être pas vu la lutte américaine, les catcheurs, en fait, on a vraiment l'impression qu'ils vont se sentir plus. Voilà, l'espèce de mimique à laquelle ils se livrent. Vous n'aimez pas beaucoup ce genre de fanfaronnade, parce que vous vous dites quel est ce noir, quel est ce noir qui voit sa grande gueule. Non, nous n'avons jamais appris à se comporter de la sorte. Nous avons fait des esclaves, des gens comme ça. Tous les modèles, tous les mannequins sont des femmes blanches, vous le savez bien. Et Jésus-Christ, tout le monde est blanc, tout était blanc. Alors quel est ce noir qui, ce blanc, se permet d'ouvrir sa grande gueule pour dire qu'il est le plus grand? Non, mais toutes les personnes qui sont ici passent à moi. S'il y a quelqu'un qui ne m'aime pas, en ce qui concerne ce que je dis, en ce qui concerne la haine, si vous voulez, s'il y a quelqu'un que je n'aime pas, c'est vous que je hais le plus. Quand vous me regardez, je n'aime pas. Ou je vois quelque chose que je n'aime pas du tout. Vous voulez sourire, vous souriez, moi je ne vais pas dire que vous êtes hypocrite parce que vous souriez. Mais non, je ne vais pas vous traiter d'hypocrite. Je ne dirai pas que vous êtes hypocrite simplement parce que vous ne me tapez pas dessus. Je sais que vous êtes assez malin pour ne pas taper sur Mohamed Ali.
Alors, voilà, c'était pas seulement le poids lourd de la boxe américaine, c'était aussi une grande gueule, hein, Mohamed Ali, alias Cassius Clay. Pourquoi est-ce que c'est quelqu'un qui vous fascine, vous qui êtes un doux, Ousmane Sow?
Mais d'abord, premièrement, parce que c'est un boxeur corporel qui a fait de la boxe, on dit le noblard, puis une sorte de chorégraphie. C'est extraordinaire de voir Mohamed Ali. On oublie les points qu'il donne, mais c'était beau de le voir, et puis de voir cette personne-là qui est fière de ce qu'il est, d'abord d'être boxeur et deuxièmement d'être noir. Et je suis sûr qu'il a fait énormément de bien aux jeunes.
Mmh. Il est fier dans ce qu'on appelle effectivement la fierté noire. D'ailleurs, ce nom de Cassius Clay était en fait le nom d'un général abolitionniste qui avait affranchi des milliers d'esclaves au 19e siècle. Hein. C'est intéressant de le savoir.
Je ne sais pas.
Est-ce que la fierté noire, c'est un thème qui vous a porté vous aussi, Ousmane Sow?
À un moment, oui. À un moment donné, bon, je ne portais pas justement cette fierté en bandoulière. Hein. Ce qu'il y a, c'est que je n'ai jamais eu de complexe. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que mon père m'a tellement élevé. Quand quelqu'un venait, on ne nous disait pas, bon, il ne disait jamais à ma mère, faut le laver, faut le tenir propre parce que je reçois un blanc. Machin, on était comme ça. C'est-à-dire que je n'ai jamais eu de complexe.
En tout cas, au Saint-Saul, à chaque fois que vous admirez quelqu'un, vous le gravez, si j'ose dire, vous le sculptez en tout cas. Alors, il y a votre père, vous vivez même sous l'œil de votre père, de sa sculpture, il y a Victor Hugo, il y a Saint-Jean-Baptiste, qu'on n'a pas le temps d'évoquer. Et curieusement, je ne vois pas une autre personnalité qui serait le président Wade.
Non, passons. Passons.
Ah non, restons.
Non.
Promenons-nous dans les bois.
Non, tout le monde, comment dire, il sait et moi je sais.
Qu'est-ce qu'il faut savoir?
Qu'est-ce qu'il faut savoir? Mais vous êtes une provocatrice, hein? C'est extraordinaire de voir.
C'est quoi le problème avec le président
Wade? Parce que c'est pas un modèle pour moi.
Pour quelle raison?
Bon, combien de temps vous allez rester à Dakar?
On reste trois jours.
Bon, écoutez, essayez d'aller quand même en banlieue pour voir ce qui se passe.
Vous avez été... Non, mais je m'interroge, vous avez été ami avec le président Wade?
Oui, si on peut dire, parce que j'ai dîné deux ou trois fois chez lui, et c'est quelqu'un vraiment que j'appréciais avant. Je pense que bon, il était bien élu, personne ne l'a contesté. Mm-hmm. Il a fait même la fierté des Sénégalais, des juste pour les jeunes qui voulaient être comme lui, c'est-à-dire Bretel, le Vasé, tout ça. Non, il a eu un impact, il ne faut pas le nier.
Et puis à un moment donné, il y a eu une coupure d'électricité entre vous.
Très.
Ah, hey.
Ah.
Ah, non,
Alex.
Ah. A. Ah, comme autoportrait.
Si vous, Ousmane Sow, vous deviez faire, c'est l'exercice le plus terrible, l'exercice de style le plus compliqué, si vous deviez faire votre autoportrait, sculpter le...
Voilà.
L'artiste en tout cas que vous êtes, qu'est-ce que vous diriez?
D'abord, je ne pense pas que je le ferai un jour.
Mmh. En tout cas, là que je vous ai de visu devant moi, je trouve que vous ressemblez à vos sculptures.
Mais bon. On me le dit.
Ce sont les autoportraits détournés que vous faites.
Mais sans le vouloir, et ça, c'est pas grave. C'est pas grave que... Ce qui aurait été grave, c'est que je le fasse sciemment.
On dit que vous racontez beaucoup d'histoires à travers vos sculptures. Je ne sais pas si c'est vrai, parce que là on est dans le domaine de l'interprétation, mais est-ce que, peut-être plus important alors à vos yeux, est-ce que vous racontez l'Afrique à travers ces sculptures?
En fait, tout au moins, une tranche de la société africaine, oui, que j'interprète, c'est-à-dire une scène de vie.
Si on regarde par exemple les Nouba, qu'est-ce que vous racontez des peuples du Sud-Soudan?
Là, c'était vraiment une revendication, puisque j'avais lu le livre de Reni Livingstone. Bon, quand je parle de cette femme, on me dit, mais vous aimez donc les nazis et tout.
Redites-nous, de qui vous parliez, la cinéaste
Reni Livingstone.
Nazi.
Oui, moi je lui dis, elle a fait un bouquin extraordinaire, qui m'a mis en contact avec les Nouvelles. Et puis je leur dis, mais qu'est-ce qui a filmé l'exploit de Jesse Owens aux Jeux Olympiques de 36, c'était l'inévitable. Moi, ce film-là, à chaque fois que je le vois, je me dis comment ça a pu passer en Allemagne. Parce que vraiment, ça a glorifié la race noire. Jesse Owens, qui bat, je ne sais pas, 100 mètres, 200 mètres, alors que Hitler avait fondé ses Jeux sur la suprématie de la race blanche, on ne voit pas un Américain qui a filmé les Jeux Olympiques et qui a glorifié un noir comme Jesse Owens. Donc je me dis, bon, c'est relatif. Moi, je pense que cette femme, ce qui l'intéressait, c'était tout, surtout la beauté de l'être.
Je ne sais pas si on vous compare à Rodin, je crois que ça vous fait sourire.
Ah oui, ça me fait sourire grandement. Alors.
Ah oui?
Parce que tout à l'heure, vous me disiez que mes sculptures me ressemblaient. Donc je ne peux pas faire autrement, involontairement, je me représente quelque part.
Ouais. Votre signature, elle est dans ce matériau, dans ce produit que vous fabriquez, vous employez des terres africaines, c'est ça, c'est peut-être là où votre identité est la plus...
C'est-à-dire, la terre n'est qu'un prétexte, hein. c'est pas...
Vous pourriez sculpter avec une terre provençale?
Pourquoi pas? J'ai pas essayé.
Mais la base est toujours la même, c'est la terre dakaroise.
Oui, oui. La terre, encore une fois, la terre, c'est un prétexte pour accrocher la lumière.
Est-ce que vous pouvez dire quel genre de livre mettez-vous en fait ça? Est-ce que vous pouvez me décrire la manière dont vous avez meublé votre secte?
On va déposer une photographie d'Ousmane qui reste perplexe devant notre question en créole. On est chez vous, dans votre maison que vous avez baptisée le Sphinx, donc il faut à la fois nous dire à quoi elle ressemble, comment vous l'avez conçue, parce que vous l'avez conçue, cette maison. Vous l'avez peut-être même bâtie avec vos mains de sculpteur, et puis pourquoi vous l'avez baptisée Sphinx?
Sphinx, parce que je trouve que du point de vue modernité en sculpture, on n'a pas encore dépassé les Égyptiens. C'est une sculpture, cette maison. On ne sent pas quand on est ici, mais en haut, justement, on voit qu'il y a un tronc, une tête, des bras et l'arrière-train et les pattes arrière. qu'on va voir si vous avez le temps tout à l'heure.
On va le prendre, oui. Alors, vous avez dans votre vie d'homme et d'artiste fait pas mal d'allers-retours hein, entre la France et le Sénégal. Et vous êtes toujours dans un métissage constant, même dans votre couple, il y a du métissage. Mais vous avez choisi aujourd'hui de vous ancrer apparemment définitivement à Dakar.
Oui.
Pour quelle raison?
C'est parce que je me sens bien, malgré les vicissitudes. Je me sens bien, je...
Malgré les coupures d'électricité avec le pouvoir.
Oui, bon, ça ne me concerne plus puisque je m'éclaire au solaire maintenant.
Ah. Non. Alors en même temps, et on va finir là-dessus, Ousmane Sow, vous revendiquez la culture africaine haut et fière et de façon décomplexée. Et en même temps, vous êtes nostalgique d'une certaine France. Vous avez eu des mots forts en préparant l'émission. Vous m'avez confié que vous pourriez même défendre, si vous en aviez encore la force, la France. Donc c'est
ça
vraiment...
m'est arrivé.
Oui.
Ça m'est arrivé en 1961, en avançant avec le putsch.
Contre le général.
Contre les généraux, là, c'est
là
où on recrutait des citoyens pour défendre Paris. Et j'avais donné mon nom, on m'avait dit, ma tour n'est pas cette nuit. Quand on vient à vous prendre, on donne les armes. Et là, l'anecdote qui me revient, maintenant ça me fait rire, mais avant je me disais, mais il faudrait quand même que tu arrêtes. Donc, tu ne peux pas avec les films de guerre, et que j'avais écrit une lettre d'adieu à ma mère. J'avais sous son lampadaire, j'ai vendu lui comme ça, devant mon hôtel. J'écrivais une lettre que j'avais mise dans une de mes poches, pour que s'il m'arrive quelque chose, on puisse l'enlever. Et ça, je lui ai dit dans une jument. Ce n'est pas inventé, c'était au film de guerre. Une jument, le héros mort, une lettre inachevé, bon, je terminerai, je m'enverrai à la famille pour dire à quel point le cinéma a un impact sur moi.
Officialmajeur@lfi.fr.
Et vous pouvez déposer un commentaire sur cette émission sur deuxamours.blogs.rfi.fr. Merci à vous, Ousmane Sow.
C'est moi qui vous remercie.
On vous souhaite du calme, oui.
De cette émission-là, comme ça. En plein air, sans des oiseaux, le vent, tout ça.
Signale les deux ouvrages.
On va apporter un peu de la maison.
Oui, on peut.
Oui.
Un bout de terre, peut-être. Oui. On va voir ça. Je signale les deux ouvrages qui m'ont aidé à préparer cette émission. Aux éditions Le Petit Jardin, même Ousmane Sow a été petit. Et puis j'ai accepté d'un beau livre de photographie intitulé simplement Ousmane Sow. Avant de vous laisser en tête à tête avec votre sphinx, c'est-à-dire avec votre maison, encore un petit mot pour dire qu'on va refermer cet ensemble majeur avec Petit Coquelicot, interprété par Mouloudji. On reste dans la nostalgie de cette France que vous avez aimée.
Allons-y.
Oui,
voilà.
C'est parti.
Le mieux de tisse, puis la rose, ce sont les fleurs qui disent quelque chose. Mais pour aimer les coquelicots et les mexas, faut être idiot. T'as peut-être raison, oui, mais voilà, quand je t'aurai dit, tu comprendras. La première fois que je l'ai vue, elle dormait à
moitié nu dans la lumière de l'été, au beau milieu d'un champ de blé, et sous le corsage blanc, là où battait son cœur, le soleil gentiment faisait vivre une fleur. Comme un petit coquelicot, mon âme, comme un petit coquelicot. C'est très curieux comme tes yeux brillent en te rappelant la jolie fille. Il brille si fort, c'est un peu trop pour expliquer les coquelicots. T'as peut-être raison, seulement voilà, quand je les prise dans mes bras, elle m'a donné son beau sourire, et puis après, sans rien nous dire, dans la lumière de l'été, on s'est aimé, on s'est aimé. Et j'ai tant appuyé mes lèvres sur son cœur, qu'à la place du baiser, il y avait comme une fleur. Comme un petit coquelicot, mon âme, comme un petit coquelicot. Ça n'est rien d'autre qu'une aventure, ta petite histoire, et je te jure qu'elle ne mérite pas un sanglot ni cette passion des coquelicots.
Mais en scène majeure au Sénégal avec Véronique Durand, Thomas Ferrière et Yasmine Chouaki, on poursuit notre route demain au bras de Aïda Relani. À demain.
Thank you.
roof up. CIUT 89.5 FM. Toronto.
Sur CIT 89.5 FM de 11h à 13h chaque dimanche. Potpourri, une émission réalisée en partenariat avec Radio France Internationale, le département d'études françaises, l'Université de Toronto et l'Alliance française de Toronto. Soyez des nôtres sur CIT 89.5 FM. Potpourri, l'émission qui vous mène jusqu'au bout du monde.
Sombre, un baron ténébreux, nous hissons nos couleurs, nos teintes dans cette session live des musiques du monde sur RFI avec Baron Black et Fatoumata Diawara. Le baron et son peuple sont en place pour le titre Bas pays à Shanghai. Bonsoir. Baron Black qui est dans la session live des musiques du monde avec le titre Babeir Absensai. Baron Black est accompagné par Benoît Rucheteau à la guitare et Willy Mango aux percussions. Je ne vous ai pas posé la question, Fatoumata Diawara. Vous connaissez les Antilles, en Cuba, vous avez peut-être une petite connaissance dans la mesure où vous avez fait la première partie de l'Afro-Cubism, donc Toumani Diabaté, les Maliens et toute la vieille histoire du Buenavista Social Club, mais ce n'est pas suffisant. Est-ce que vous connaissez un peu cette partie du monde ou pas du tout?
Pas vraiment. On connaît les classiques, Bob Marley, tout ça, mais effectivement, comme j'ai jamais été, alors j'écoute de loin, mais j'aimerais y aller vraiment pour ressentir cette musique dans le pays là-bas.
Alors, à part la Martinique, dont vous êtes originaire, Baron Black, quelle est l'île que vous lui conseilleriez en dehors de la vôtre, la Martinique?
Le Zouk, non?
Oui, la Martinique, Guadeloupe, c'est vrai, c'est le Zouk vient de là-bas.
Mais quand on entend Baron Black, ça ne s'entend pas. Quand on écoute Mario Canon, ça ne s'entend pas non plus. Quand on écoute Mouchinédou, ça ne s'entend pas encore plus, pas davantage.
Le Zouk est arrivé un peu après, les musiques qu'on avait déjà comme musique propre, musique de résistants comme le Bélègre, le Fiquet, Chouvalbois,
les Chouvalbois, c'est la musique qu'on faisait pour les manèges, les petits chevaux.
Et même si je devrais conseiller une île, j'aime particulièrement l'île de la Dominique parce qu'elle reste un peu pure, tu vois. Et c'est vrai que l'état d'esprit qui est là-bas, ça me convenait parfaitement.
Vous aimez l'aspect un peu sauvage des îles, genre pas trop touristique.
Moi, j'adore tout ce qui est nature.
Tobago, on peut lui proposer, c'est juste en face de Trinidad, c'est Trinidad en version plus rousse.
Exactement,
français,
c'est
ça, Trinidad
et Tobago.
Oui, Trinidad, Tobago, c'est la patrie des Californiens qui ont tous des noms de catcheurs mexicains. Je pensais à vous, Baron Black, et les Admiral Trucmuche et les Princes Machin. Dans l'univers du dancehall, on ne peut pas s'appeler Rémi Petit Cœur de Lion. C'est toujours des noms un peu compliqués. Pourquoi?
C'est un peu les Jamaïcains qui prennent des noms d'acteurs. On va retrouver Clint Eastwood, on va retrouver Josie Wales, etc. Là-bas, en Jamaïque, mais c'est des chanteurs. Donc nous-mêmes, bon, moi, j'ai commencé, j'étais très jeune, j'avais 13-14 ans, quand j'ai vu ces gars-là, les premières galettes tourner sur les platines. Et donc du coup, il fallait trouver son nom.
Mais c'est pas le premier Baron
Non, il y avait
le Baron Pantafresh.
Voilà, il y avait déjà le Baron Pantafresh, qui est un DJ toaster de l'île.
Il y a Baron Samedi en Haïti, c'est pas le même, hein.
C'est pas le même, mais...
On arrive en Père Vaudou. Aussi mon ami, avec Maman Brigitte. Patient.
Vaudou, je ne connais pas.
Moi non plus.
Baron Samedi, effectivement, c'est Haïti. Je connais bien l'histoire d'Haïti. Bon, c'est vrai que Haïti, c'est le premier pays noir qui a eu son indépendance. Voilà, et l'esprit de vaudou, c'est un peu l'esprit, ils ont fait appel un peu à ces sciences pour repousser les ennemis, en tout cas, tu vois. L'esprit d'Ambala, etc. Et je connais un peu sur Haïti, mais Baron Black, ça n'a rien à voir avec le Baron Samedi.
Je vous propose de nous retourner vers Fatoumata Diawara qui va nous interpréter un nouveau titre qu'on peut retrouver sur son premier album Fatou. Et Fatoumata a choisi le titre Sonkolo. C'est dans la session live des musiques du monde sur RFI, Fatoumata Diawara.
Don't.
À Diawara sur RFI dans la session live des musiques du monde avec le titre Sans Color pour le 29 novembre au New Morning à Paris. Vous êtes toujours dans cet état d'avant de faire une scène importante, toutes les scènes sont importantes. Est-ce que vous avez le trac? Est-ce que vous vous sentez mal? Est-ce que vous allez vomir sur scène?
C'est particulier cette date-là à Paris parce qu'on ne joue pas souvent à Paris, on est en tournée dans le monde entier. Et donc, à chaque rendez-vous, il y a le public qui me connaît. Donc, j'ai l'impression que je dois faire le bilan du spectacle. Donc, Paris, c'est plutôt un point de rendez-vous. Assez... On est en famille, quoi. Surtout, chaque qui vient, mais là, c'est celui qui vient à chaque concert et il me dit, non, ça c'est bien, ça c'est pas bien, mais dans le bon sens, ça c'est mon mentor. Donc, c'est bien.
Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Fatoumata Diawara, ce serait quand même un accident notoire. Mais enfin, Fatoumata a donc cet album qui sort là depuis quelques jours, Fatou, qui est sorti chez World Circuit. Fatoumata était dans la comédie musicale Kirikou, la sorcière, jouait le rôle d'horrible sorcière. C'est-à-dire que Fatoumata a un visage qui bouge, elle peut être sublime, elle peut être aussi monstrueuse. Hein.
Comédienne, évidemment, on peut la retrouver sur les disques de ses camarades, notamment sur Sabani Chekhtiansek, sur Seiya, de Moussangaré, vous êtes sur le Herbie Hancock, sur l'Imagine Project, sur le Didi Bridgewater, c'est là où. Enfin, où Cheikh Ilyan vous a véritablement pas tendu la main, mais après tout son boulot, il est producteur, il est là pour écouter de nouvelles voix, de nouveaux musiciens, il fait partie de la vie. Quelle est la personne à qui, d'une certaine manière, vous devez votre carrière aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un nom vraiment important pour peut-être plusieurs?
J'ai à la fois personne et.
C'est comment elle est venue? Vraiment, personne.
J'ai à la fois une soixantaine, mais j'ai des piliers dans le théâtre. J'ai rencontré des gens qui m'ont aidé, qui m'ont tendu la main depuis que j'avais 13 ans, depuis que j'ai fait mon premier plateau, entre Sakuma Sissoko, Sophie Kiyate, qui a été mon conseiller pendant tout le temps jusqu'à sa mort l'année dernière, paix à son âme. Et Abraham Sissako, c'est quelqu'un qui, voilà, c'est son même mentor, mes papas. Et Peter Bourke, que je connais très bien. Et dans le théâtre, Jean-Louis Sarrodivoro de Royal Deluxe. Jean-Louis Crocoult, donc il y a beaucoup de piliers, et Michel Oslo de Kirikou Carvin, ainsi de suite. Et dans la musique, j'ai Oumou, Didi, Cheikh.
Voilà,
donc j'en ai beaucoup, j'en ai énormément. Mais depuis que je suis née, j'avoue que mon père, il m'a vite rendu un peu responsable. Quand j'étais petite, je faisais la danse de mon village, en étant en Côte d'Ivoire, et il me mettait tous les vendredis dans la foule et j'inaugurais cette manifestation-là. Donc il m'a appris à faire des choses sans réfléchir. Je pense que il y a une base de là-bas.
Vous êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes malienne, mais vous êtes en Côte d'Ivoire. Que faisait votre papa pour vous balancer dans la foule et danser?
Il était politicien, mais il s'occupait de la culture énormément. Il voulait valoriser cette culture malienne, surtout notamment la culture de Wassoulou, qui est une musique assez traditionnelle, qui a un rythme très funky, très rythmé. Donc il faisait des manifestations toutes les semaines, tous les mois.
Vous êtes de Wassoulou, Fatou?
Moi, je suis de Wassoulou.
Comme Moussangaré?
Comme vous. Elle est notre idole à tous. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup battu et qui continue à se battre. Donc, la rencontre que j'ai faite avec Mouss, c'est en quelque sorte comme si elle veut qu'il y ait un peu de suite. Qu'il y ait d'autres jeunes filles qui s'engagent dans la musique, aborder des thèmes sur les femmes, la société et faire évoluer les...
Elle le fait de Bamako.
Elle voyage, c'est l'une des femmes chanteuses qui est sur les plateaux du monde. Elle a commencé avant tout le monde. Roquet est venu après, mais Oumou est l'une des seules femmes qui a fait 20 ans dans le monde entier à faire des festivals au nom du Mali. Après, il y a eu Roquet, et maintenant, moi je suis la plus jeune, mais c'est la continuité de tout ça. Vu le nombre de chanteuses qu'il y a au Mali, c'est pas normal qu'il y ait, qu'on compte du bout du doigt les femmes qui sont sur les scènes à défendre les enfants, les femmes, la société et tout. Donc c'est un truc qui ne va pas.
Heureusement
qu'il en est plus.
On compte sur vous, Fatou Matadiawara.
Il n'est pas plus, pas moi, mais...
Petite chanson bien fraîche, bien agréable. On en reparlera avec vous, Baron Black. C'est Chlordécone. C'est extrait du nouvel album de Baron Black et Tradition Moins. Diablé, parce que souvent on danse sur la mort, on danse sur des trucs terribles. Et là, c'est le morceau de Baron Black qui s'appelle le Chlordécone. C'est pas un hymne au printemps, un hymne à l'amour. C'est la dénonciation d'un scandale, d'un pesticide qu'on a balancé royalement sur les bananes, sur la canne à sucre, un petit peu partout, et qui est extrêmement bon pour la santé. Et c'est des dessins pris qui vous a prêté main forte sur ce morceau pour dire que vraiment c'était dégueulasse.
Oui.
C'est quand ça, hein, l'histoire du Chlordécone, je m'en souviens plus.
L'histoire du Chlordécone, ça a toujours existé aux Antilles. Hein. Ça a été interdit depuis 93, en tout cas en France. Mais, si tu veux, dans les plantations de bananes, etc., on a toujours utilisé ça. Et je pense qu'il n'y a pas eu assez de contrôle qui fait qu'aujourd'hui, jusqu'à maintenant, ben, le cancer de la prostate, etc., tout ça, ça a un taux le plus élevé, en tout cas dans la Caraïbe. C'est Martinique, Guadeloupe. Et c'est là où on a utilisé justement ce pesticide pour faire prospérer leur portefeuille.
Si les conditions de travail ne sont pas modifiées, il faudra des siècles pour humaniser ce monde rendu animal par les forces impérialistes. Franz Fanon, 1961, les données de la Terre.
Mm-hmm.
Sont vos copains avec Aimé Césaire et Edouard Glissant, je suppose.
Exactement. Quand il y a les sonorités de percus qui se rapportent à l'Afrique, eh ben, déjà tous ces rythmes qu'on a chez nous déjà aux Antilles, eh ben, c'est déjà des rythmes... qu'on retrouve en Afrique, ça engendré de là-bas, quoi, ça vient de là-bas. Mmh. Et pour moi-même, comme elle disait tout à l'heure dans son interview, c'est une continuité, c'est rendre hommage à tous ces gens qui se sont battus pour la résistance, etc. C'est vrai que moi, j'adopte une autre méthode sur le belé. Ce sont les plus anciens qui ont l'habitude de chanter sur cette musique. Et moi, je viens avec mes influences nouvelles. C'est vrai que c'est une première quand je viens tester sur le belé. Mais c'est toujours avec beaucoup de respect quand je viens me prêter à ces rites, sans les dénaturer. Puisque ce que je viens raconter dessus, ça se rapproche toujours à cet esprit de militantisme, Fanon, Césaire, etc. Tous les grands, même ceux qui ne sont pas connus. On a tendance à citer ceux qui sont connus, mais des fois, ce n'est pas les plus connus qui sont
dans le pays même,
voilà, dans le pays même qui ont mené le plus de résistance et qui ont le plus de combats. Mais en tout cas, c'est vraiment de fond du cœur que je viens me prêter à ces rites et pour les remettre au goût du jour avec des influences de guitare moderne. Ça.
On a bébé Mathilda qui touche. Oui, parce que pendant l'émission,
l'écriture des textes ne sont pas les mêmes à chaque fois.
Voilà, l'écriture, c'est pas
pareil. Ça continue. Mmh. Chacun amène quelque chose
exactement
dans sa façon d'écrire qui est assez différent.
Vous êtes nombreuses au Mali à être autant compositeur, Fatou Matadiawara?
Justement, non. Il y a beaucoup de grandes chanteuses, mais c'est rare celles qui s'intéressent aux instruments. C'est vraiment quelque chose qui ne traverse pas beaucoup l'esprit. Des femmes.
Vous avez une figure tutélaire en Afrique, quelqu'un que vous avez pu vous identifier pour être la personne que vous êtes aujourd'hui, c'est-à-dire auteur, compositeur, interprète,
non,
guitare.
Moi, c'est venu caractériellement. J'ai vraiment touché la guitare du fait que à Paris, ici, quand j'ai commencé à jouer dans les bars, les musiciens, ils venaient quand ils voulaient. Et comme quand je veux faire quelque chose, je veux que rien m'arrête. Je voulais avoir mon autonomie tout de suite. Et j'ai eu la confirmation quand un guitariste m'a lâché 3 jours avant un concert au Satellite Café. Depuis là, je joue tous les jours avec ma guitare. Depuis 2 jours, je n'ai pas lâché de guitare. Et j'ai appris sur scène, je n'avais pas le choix. Dans ma vie, il y a beaucoup de musiciens. Tu en trouves facilement quand tu te fais lâcher, tu trouves un autre vite fait. Mais à Paris, quand tu démarres, il n'y a pas de sous forcément pour payer les musiciens qu'il te faut, qui comprennent vite. Donc tu dois t'adapter. Moi, j'ai compris ça très vite. Faut jouer quelque chose, même si c'est les shakers ou de la flûte ou quoi, mais faut que je sois capable d'aller seul et d'assurer. Pas bien ou pas, mais il faut le faire.
J'ai eu Baron.
Non, non.
Pierre Vallée et Benoît Despierrin, je vais aller en participer aussi à cette émission. Je rappelle que le nouvel album de Baron Black s'appelle Tradition Moins et que le premier album de Fatoumata Diawara s'intitule Fatou. Est-ce que vous allez vous mélanger, la fille et le garçon et les musiciens? Est-ce que Benoît, est-ce que Wedi, est-ce que le Baron, est-ce que Fatou pourrait éventuellement se lancer dans un morceau ensemble, Together with Highlander?
Je dis. Il n'y a pas de soucis. Déjà, on est tous sous l'emprise de Charles. Tu vois, donc voilà, on suit le lead. Je ne sais pas qui est le lead, mais on suit le lead.
Voilà, ça c'est le musée du monde de Fatou Mata Diawara et Baron Black. Merci, à la semaine prochaine. Merci infiniment.
Merci.
Come on, dear.